Radio Okapi. Écho des développements. Chers auditeurs auditrices des Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous du magazine radiophonique Écho des développements, qui est une émission dédiée aux questions de l'environnement et développement durable. Quel est le but de la création du couloir vers Kivu-Kinshasa? C'est le sujet que nous sommes en train d'aborder au cours de ce numéro d'Écho des développements. Tati Mapuko est à la présentation de cette émission. Jean-Marc Matoua qui supervise et coordonne ce numéro. Dieudonné Nyangasa est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce numéro consacré aux questions de l'environnement et développement durable.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le projet couloir vers Kivu-Kinshasa a été lancé l'an dernier par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour plusieurs raisons importantes. Et quel est le but de la création du couloir vers Kivu-Kinshasa? De plus amples détails dans ce numéro des codes de développement. Nous entamons notre magazine par les commentaires de Monsieur Ismaël Mumpoy qui nous a laissé son témoignage depuis la ville de Lubumbashi. Selon cet auditeur, il est important de sensibiliser en amont les communautés vivant dans l'aire géographique concernée par ces projets.
À mon humble avis, je pense que c'est une bonne idée que nous tous nous pouvons nous soumettre. Mais à quelles conditions nous allons nous soumettre à cette chose prévue par ceux qui organisent la création d'un espace vert? En plus, ce matin, vous avez vu ce que je vous ai envoyé sur ce site, parce que nous avons les chenilles saisonnières qui ravagent les champs. Mais jusque-là, on ne dit rien à personne, la période est en train de passer, les maïs sont en train d'être ravagés, mais nous n'avons aucune sensibilisation. Mais il faut nous dire, à telle période, voilà votre survie, voilà ce que vous pouvez faire. Couper les arbres, il faut planter un autre arbre pour votre survie. Cela nous aiderait davantage pour ne pas aller au-delà des limites écologiques que nous avons besoin de survivre.
Ces corridors écologiques visent à protéger les écosystèmes entre l'Est et l'Ouest de la RDC, affirme Maître Augustin Poyi, expert en droit de l'environnement. Il s'inscrit dans une vision de développement durable cherchant à promouvoir une économie verte tout en renforçant les cadres légaux de l'environnement en RDC, ajoute ces spécialistes en droit de l'environnement.
L'idée est partie du Conseil des ministres, un compte rendu a été lu, suivant lequel le gouvernement prenait une option de pouvoir créer une vaste zone qui part de deux Kivu jusqu'à Kinshasa, en passant par Kisangani, et puis longer le fleuve jusqu'à Kinshasa. Alors l'idée, c'est de renforcer la conservation de la biodiversité, mais en même temps de mettre en œuvre les principes de l'économie verte dans la zone, tout en ayant un regard assez particulier sur les intérêts et les droits des communautés locales et peuples autochtones pygmées. Alors, c'était ça l'idée de base qui a été retenue au niveau du Conseil des ministres, et avec une option de pouvoir créer, instituer une aire protégée qui répond à cette perspective-là. Et donc, à la suite de ce compte rendu du Conseil des ministres, une équipe s'est mise en place. J'ai eu le privilège de participer à ce groupe de travail qui a commencé à étudier les termes du compte rendu par rapport à ce couloir vert écologique pour pouvoir évaluer dans sa faisabilité d'abord sur le plan de droit, sur le plan juridique, institutionnel, et puis sur le plan technique. Et l'on est arrivé à la conclusion, après cette évaluation, qu'il fallait plutôt modifier la loi sur la conservation, parce que la nature de l'aire protégée qui était proposée par le gouvernement, à l'initiative du président de la République, il faut le souligner, ne pouvait pas être créé dans le contexte, dans l'environnement juridique institutionnel de la RDC, sans procéder par une modification législative. Et la loi concernée par la modification, c'est la loi de février 2014 sur la relative à la conservation de la nature. Pourquoi la modification s'est imposée? Pour la simple raison que les éléments qui sont clés, qui sont retenus pour créer et faire fonctionner cette aire protégée, ne pouvaient pas être rendus possibles dans la configuration de la loi actuelle. D'abord parce que chaque fois que dans le cadre de la loi actuelle, chaque fois que on crée une aire protégée, donc c'est un espace qui a des restrictions en termes d'accès, en termes de droits d'exploitation, et où ne se développent que des activités liées à la conservation de la nature, de la biodiversité, des écosystèmes. Alors qu'ici, l'idée était plutôt de pouvoir autoriser plusieurs types d'activités aussi, tout en ayant la conservation comme étant une priorité, mais de ne pas exclure d'autres activités économiques dans la zone, mais pourvu que ces activités soient orientées vers l'économie verte. Donc c'était ça, et donc il fallait répondre à ce besoin d'inclure d'autres types d'activités économiques, y compris hein, même des activités extractives, mais contrôlées, pour qu'elles ne nuisent pas à l'environnement, à la biodiversité et aux intérêts vitaux des populations.
Oui, maître, mais donc, les projets couloirs vers Kivu-Kinshasa portés par le gouvernement de la RDC ne cessent d'alimenter le débat hein, auprès des acteurs de la société civile environnementale. En décembre dernier, la dynamique des groupes autochtones pygmées des GPA en sigle a publié une note technique hein, pour relever les défis, les risques et les incidences socioculturelles que ces projets pourraient générer. Est-ce que ces aspects sont également pris en compte et sont déjà en amont étudiés?
J'ai pris connaissance de la note, elle est pertinente. Je connais bien la DGPA. Oui, elle est pertinente. On sait qu'elle portait des préoccupations liées aux intérêts vitaux, surtout des peuples autochtones pygmées. Mais on peut aller plus large, hein. Ce qui concerne les pygmées concerne également toutes les autres communautés locales qui sont concernées par, qui seront affectées par la création de cette aire protégée. Il y a quand même des garanties, il faut le dire, hein, qui ont été imaginées pour pouvoir s'assurer que les intérêts des communautés sont pris en compte d'abord dans le cadre de la création de cette aire protégée. Il est prévu, lorsque l'aire protégée est créée, de mettre en place un mécanisme à travers l'enquête publique préalable qui permet de consulter les communautés sur les processus d'affectation des zones à l'intérieur de cette aire protégée. La consultation, pourquoi ? Pour pouvoir évaluer leurs besoins, pour pouvoir les prendre en compte dans le cadre de la planification de l'utilisation du sol au sein de la réserve, surtout lorsque cette affectation est de nature à générer des incidences sur les populations en termes de perte de droits ou de modification de leurs droits. Et donc, on a ouvert cette brèche qui permet justement aux communautés, aux peuples autochtones pygmées, de participer au processus décisionnel qui sont liés à l'affectation des zones et plus tard d'être associés également dans la gestion de la zone. C'est vrai que toutes les garanties ne figurent pas dans la loi, mais je pense qu'il est prévu un décret de création de cette aire protégée qui n'est pas encore créé parce que la loi c'est une chose, on l'a modifiée. Maintenant il faut créer ce couloir vert. Pour le créer, il faut un décret du Premier ministre et d'autres garanties par rapport à la création de cette aire protégée vont être contenues dans le décret qui est encore attendu.
Un autre avantage est la protection des forêts primaires de la RDC. Selon nos sources, ces projets prévoient la création d'une aire protégée pour préserver environ 100 000 hectares des forêts primaires. Cependant, ces projets butaient à des défis majeurs, hein, notamment les risques et les conflits avec les communautés locales et les peuples autochtones pygmées PAP, dont les moyens de survie dépendent des ressources naturelles, selon Guy Kajemba, coordonnateur du groupe de travail Climat RED+.
Nous avons pris le temps un peu de comprendre les contours de ce travail, de ce projet-là. Nous avons essayé un peu de contacter les différents acteurs. Je veux vous dire qu'il y a la Belgique qui est dedans, il y a des experts belges ou de partenaires belges qui sont dans ce projet. Il y a le professeur Sanginga qui est aussi dedans.
Impliqué dans le projet.
Il y a aussi Demerode de l'ICCN. Et nous avons essayé un peu d'avoir des informations. Il y a des professeurs qui ont été contactés au niveau de l'université de Louvain. Et nous avons essayé un peu de trianguler ces informations-là pour comprendre le contenu. Parce qu'au niveau national, c'est pas ce problème-là d'implication, de participation, ce qui est un peu gênant. Où on va dans tous les sens. C'est un vaste projet. Et tout projet a des risques. Et nous avions beaucoup de craintes au début. Les craintes d'abord à deux seuls niveaux, parce qu'il ne faut pas, c'est la création intempestive, et on ne s'était pas rassuré réellement des espaces qui seront concernés, et là ça c'est parti dans tous les sens. Mais sinon nous avons été apaisés quand nous avons vu le décret qui a repris l'ensemble de nos préoccupations, parce que nous n'avons pas beaucoup de préoccupations dans ces questions-là.
Lesquelles? Quelles sont ces préoccupations?
Qu'est-ce qui
vous préoccupait dans le cadre de l'ouverture de ces projets?
C'est d'abord, le plan d'aménagement, savoir si c'est où, c'est dans quel espace, ça concerne quelle communauté, et ainsi de suite. Donc ça, c'est d'abord, c'est la cartographie participative ou une cartographie. De deux, ce sont les études d'impact environnemental et social. Trois, le consentement libre, informé, les clips préalables. Et quatre, c'est le mécanisme ou dispositif de gestion de plaintes et recours. Dans l'annonce comme ça, d'emblée, tous ces éléments
n'ont pas été explicités.
Oui. Mais dans le décret, à l'article 4, 5 et l'article 9, on reprend
Toutes ces
préoccupations-là. Et en lisant ces décrets, nous avons dit, il y a quand même des avancées, il y a quand même des gens qui ont réfléchi comme nous. Parce que nous, c'est le danger d'un projet comme ça, parce que ça risque d'empiéter ou de compliquer un peu la vie des communautés. On l'a vu dans d'autres projets, et que ça pose souvent des problèmes dans la mise en œuvre, ou bien dans l'implication, ou même dans les survies des communautés par rapport à leur terre.
On sait qu'il y a déjà des conflits latents entre les communautés à travers les pays, et si il n'y a pas les principes de consentement libre, ça risque d'être compliqué.
Effectivement, parce qu'il faut une participation, il faut une implication. Vous savez que quand les communautés ne sont pas d'accord avec un projet comme celui-là, un matin, vous pouvez trouver qu'on a brûlé la forêt. Et c'est facile de mettre la forêt quand les gens ne s'approprient pas, et ça ne sera plus vert. L'autre préoccupation que nous avons, c'est que c'est entre-temps des zones rurales, des zones urbaines et des zones de communauté. Ce sont des modes de vie qui sont différents. Et que tous ces questions.
Et des affectations d'activités différentes.
Différentes, parce que les urbains, c'est la pollution, on veut savoir. Les communautés, c'est la conservation, c'est eux qui conservent les forêts. Et donc, toute cette question-là. Nous tarot dans la tête. Le document, il a, comme chez nous ici, c'est très bien, c'est très beau, le document, les décrets que j'ai vus, j'ai été surpris, parce que je l'ai dit il y a deux jours. Il reprend toutes ces questions-là. Alors, nous, la question que nous posons, est-ce que ça sera fait? Chez nous aussi, en RDC, on sait bien écrire. Nous avons des textes qui sont très, très bien écrits, mais nous voulons avoir des garanties.
Sur la faisabilité de ces projets.
Sur la faisabilité de ces projets et sur le respect des engagements qui sont repris.
Qui sont énoncés sur les communiqués.
Voilà un peu la préoccupation d'Angle.
Mais il sera aussi important que l'on puisse également impliquer vous qui êtes dans la société civile environnementale.
Absolument, c'est écrit dans le document d'une façon ou d'une autre que les communautés seront impliquées dans les discussions. La faute, c'est la création. Même avant notre vision, c'est que quand on veut faire quelque chose, on consulte en amont et en aval. Et ça donne une portée de dire que non, nous sommes quand même impliqués. Il y aura des discussions, on a vu beaucoup de cartes, il y a des débats sur ces cartes-là. Par rapport à, disons,
à l'affectation des terres.
À la définition des territoires, aux limites géographiques des provinces, ainsi de suite. Ce débat-là va se reproduire. Malheureusement, c'est après que le décret soit là. Donc nous pensons qu'il y a encore un travail à faire, à approfondir. J'espère que le gouvernement sera disponible pour nous faciliter ce travail-là, pour que nous puissions participer activement, c'est-à-dire les organisations de la société civile qui travaillent avec les communautés locales et les peuples autochtones, puissent participer activement
à la création, à la mise en place de ces vastes projets. Mais dites-nous, M. Guy Kajema, nous rappelons que vous êtes coordonnateur du groupe de travail Climaraide Plus. Est-ce que ces projets comportent réellement des avantages une fois bien exécutés?
Oui, en fait, notre souci, comme d'habitude, c'est toujours accompagner les communautés pour qu'elles puissent continuer à préserver les forêts et évidemment le climat. Ça fait partie de notre travail normal. Alors, tout ce qui va venir après, c'est tous les débats sur les marchés de carbone, sur les compensations et tout ça. Ça, ce sont des discussions qui doivent être suivies de près parce que ça peut être, il faut rappeler ce que ça, les fuites, c'est-à-dire que les gens peuvent travailler là-bas pour aller faire des dégâts ailleurs et quand on fait la sommation, on n'a rien comme séquestration. Donc, c'est un travail. S'il est bien fait, si la communauté s'implique et si le gouvernement les rend responsables réellement de leur propre développement au niveau local, on est quand même assuré qu'on peut encore, disons, à un moment donné, se rassurer qu'on a un espace juridictionnel sur lequel on peut compter dans le futur pour le carbone séquestré.
Et le couloir vert va quitter Nord Kivu, Beni, Kisangani, Bunia d'abord, et puis Kisangani, Kinshasa. Donc c'est vraiment un long couloir qui va être créé. En même temps, on sait que dans la partie est du pays, c'est une zone affectée par les conflits armés. Il y a également des préalables à prendre de ce point de vue.
Oui, c'est tout ça le problème. C'est ce travail-là qui devait se faire en amont. C'est ce genre de travail-là qui devait définir un peu avec les communautés. Parce qu'au fait, même quand on veut occuper, on veut avoir une concession n'importe laquelle, il y a des exigences. Il y a des exigences. Les enquêtes publiques, bon, c'est repris encore ici, mais c'est encore après. Est-ce que les enquêtes publiques, une fois faites, vont modifier les cartes produites? C'est une question. C'est-à-dire qu'il y a eu la charrue avant les bœufs, désolé, et que donc il faut requalifier, il faut encore revoir, un peu se rassurer, parce que dans tout ça, il y a des carrières minières, il y a des conflits, comme vous dites, et toutes ces zones-là doivent être soit extraites de ces couloirs pour que les travaux avancent, ou alors trouver des mécanismes pour...
Des dédommagements ou des réaffectations d'activité dans toute la région dans toutes les régions que les projets vont traverser. Est-ce que vous avez un appel pressant lancé en intention surtout des communautés qui vont bénéficier de ces projets du Nord Kivu à Kinshasa, ainsi que des décideurs qui nous suivent à l'instant, M. Ginka Jimba?
Bon, moi je pense que nous continuons les discussions avec les autorités. Nous allons avant de nous engager profondément, nous allons continuer les discussions avec les autorités pour nous voir un peu de manière pratique comment est-ce que quel genre de message et qu'est-ce qu'il faut échanger avec les communautés par rapport à ça. Parce que les communautés aussi sont surpris. À ce moment-là, ils se disent de quoi il s'agit. Ça suppose qu'il faut une vulgarisation.
Un grand travail de vulgarisation
qui demande des ressources, qui demande de l'engagement et qui demande... Ça doit être multi-acteurs.
Que les gens ne soient pas surpris l'exécution de projets, le lancement de projets, voilà.
Vous savez, ce qui nous fait mal dans ce pays, c'est souvent ça. C'est comme ça qu'on nous a fait encore avec les projets, le bloc pétrolier.
D'où l'interprétation parfois erronée de la population parce qu'elle n'a pas été associée en amont.
Effectivement. Parce qu'on vous surprend toujours dans un discours politique.
C'est pas ici que s'achève le magazine Éco de développement que vous a présenté Tatima Poukou, Jean-Marc Matois qui l'a coordonné, supervisé et Dieudonné Nyangasa s'est occupé de la prise de son. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain pour un nouveau numéro du magazine Éco de développement qui est une émission dédiée aux questions de l'environnement et développement durable des Radio Okapi.